Alors, ce que je vais vous apporter, en fait, c'est sur trois versets. Et ces trois versets, en fait, se trouvent dans Hébreux 11, qu'on va lire tout à l'heure. Donc, sur ces trois versets, en fait, je me suis appuyé sur un enseignement de Mike Evans. Mike Evans, c'est un de mes préférés. C'est un enseignant de mes préférés, que j'aime beaucoup, que j'apprécie et que, sur Terre, est un modèle aussi pour moi. La valeur d'un témoignage, c'est de faire ressortir ses points saillants et de faire en sorte que chacun se reconnaisse dans une recherche, dans un point d'interrogation. De quelque chose qu'on a trouvé dans une attente, dans un désespoir et aussi dans la joie de trouver. Là est la valeur du témoignage. Un témoignage ne se limite pas à une seule personne parce qu'il y a une action extraordinaire de ce Dieu de l'univers qui nous conduit vers lui. Ce Dieu qui cherche tout être humain. Il est écrit clairement, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans 1 Timothée 2,4. Sans exception de couleur, de race, politique, religieux ou philosophie, il nous cherche. Dans tout être humain, il y a cette force de rappel vers un Dieu qui est à l'origine de toute chose. Nous avons un point commun. Nous sommes tous confrontés au Dieu créateur. Voici la toile de fond dont je vais vous nommer quelques points saillants. Si j'utilise l'expression « vivre par la foi », qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Dans mon expérience, la foi n'était ni plus ni moins que l'expression de croyance en Dieu. Avoir la foi voulait dire croire que Dieu n'existe, que Dieu existe, sans plus. Et cela, un bon nombre de nos contemporains le pensent. Nous aurions tort de penser que cette allusion ne vise que l'approche catholique, judaïque ou musulmane de la foi. Avec le temps, cette approche a subitement gagné une bonne partie des milieux évangéliques dont je fais partie aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, se disent chrétiens simplement parce qu'ils disent croire que Dieu existe et qui vont à l'église le dimanche. Non. Non, mes chers frères et sœurs. On ne trouve nulle part dans l'Écriture un tel concept selon laquelle la foi serait le simple fait de croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe ne sauve personne. Croire que Dieu existe n'a rien à voir avec la foi. En fait, mis à part les athées, convaincus. Tout le monde croit en Dieu. Or, croire qu'il existe ne signifie rien que la foi soit impliquée. Pourquoi donc ? Parce que dans notre société occidentale, croire en Dieu est un phénomène culturel, bien avant d'être un phénomène spirituel. Aller à l'église le dimanche est une tradition intégrée à nos mœurs comme une habitude. Dans mon histoire, j'étais dans ce courant-là. Je me rendais à l'église seulement pour me sentir au milieu d'un groupe et intégrer une activité. Cela devenait comme une activité culturelle et sociale. Et je ne marchais pas avec Dieu durant la semaine. Avec le temps, cette approche ne me satisfaisait pas. Il me manquait quelque chose. Et pourtant, je croyais toujours que le Seigneur Jésus-Christ est mon Sauveur. Mais je ne le vivais pas. Je comblais une vie intérieure avec les choses du monde. Un jour, un problème de santé a arrêté ma course. J'ai eu la conviction que Dieu me cherchait à ce moment-là. J'ai compris que Dieu mettait un stop à l'incohérence de ma vie. Alors, mon être entier s'est orienté vers lui, avec un cœur sincère. Et là, je découvris une autre dimension de la croyance qui m'orientait vers quelque chose qui s'appelle la foi. La foi est une façon de concevoir la vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole, ce qui nous a été rappelé tout à l'heure, Eric. L'Écriture nous enseigne que tout chrétien doit vivre par la foi. Nous sommes tous appelés à vivre une vie de foi. À vivre par la foi, mais qu'est-ce que vivre par la foi ? Alors là, je vous invite à ouvrir la parole dans Hébreux chapitre 11, au verset 1 à 3. Je vous rappelle que cette lettre est adressée à des chrétiens d'origine juive qui se trouvaient dispersés un peu partout et qui, pour plusieurs, commencent à avoir quelques regrets d'avoir quitté le judaïsme. Découragés, certains sont tentés de retourner en arrière. Accepter Christ pour un juif veut dire couper de sa famille. Et je sais ce que cela veut dire pour moi aussi. Il est mis à l'écart par tous ceux qu'il fréquentait autrefois. Il est exclu. Il souffre de ce fait d'avoir été mis à l'écart, de ne plus faire partie du peuple. Nous sommes là dans la fin des années 60. Le culte lévitique est encore là. Le temple de Jérusalem n'est pas encore détruit. Mais la persécution va en augmentant et plusieurs responsables de l'Église sont morts déjà. Ces chrétiens auxquels est adressée cette lettre commencent à être un peu perplexes, ne sachant comment faire. Soit retourner en arrière, retrouver la famille, des amis, revenir au culte lévitique, ou soit persévérer en Christ, pour lequel ils sont de plus en plus persécutés. Ça, c'est juste le contexte. Or, la foi, dans Hébreux chapitre 11, donc nous y venons, au verset 1 à 3, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visible. Ces trois versets, lorsque je les ai lus, lorsque je me suis penché dessus, il y a quelque chose de puissant. Dans ces trois versets, il y a tout le plan de Dieu.
Qu'est-ce que la foi ?
Sans cette foi dont nous allons parler, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de lui être agréable, dit le texte. Alors, qu'est-ce que la foi ? Au chapitre 11, verset 1, « Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une assurance des choses qu'on espère. La foi est un fondement, une base d'appui solide dans lequel l'espérance prend son envol. Voici trois remarques. Premièrement, la foi se vit. La foi se vit au présent. La foi est une réalité présente. Ce n'est finalement pas quelque chose qui se définit en termes du passé ou d'un choix que l'on aurait fait. C'est par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu qu'il nous rend capables d'avoir la foi. La foi est. On a commencé notre vie chrétienne en croyant en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'était le début de notre foi. Mais cela ne s'arrête pas là. La foi se conjugue au présent. La foi, finalement, nous accompagne dans notre perspective, dans notre regard, dans notre concept de vie de tous les jours. La foi est. Deuxième remarque. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une assurance des choses qu'on espère. La foi nous aide à avoir l'assurance de choses qu'on espère. Le mot « assurance » veut dire une certitude. C'est une certitude des choses que nous espérons, dans le sens des choses qui nous sont pas encore, mais qui sont des réalités futures. Ils ne sont pas encore, mais qui sont des réalités futures. Marcher par la foi, c'est avoir dans son cœur une ferme conviction de l'assurance que tout ce que dit la Bible par rapport à mon avenir, au futur, est vrai. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a énormément de choses mentionnées par rapport au futur des réalités qui nous attendent. Le témoignage des anciens est là pour nous illustrer concrètement ces propos-là. Il est question de demande. Ça a été dit dans nos prières ce matin. Le monde visible, le monde que nous touchons, palpable et tangible, n'est pas le seul qui existe. Ce monde-là est provisoire. Ce monde-là, certes, est visible, mais il y a un autre monde qui est réel. C'est le monde invisible qui est éternel et nous avons cette ferme assurance dans ces choses que nous espérons. Cette espérance concerne le monde futur, la nouvelle Jérusalem. Il y a effectivement une part de réalité ici sur terre où nous vivons ensemble. Une certaine expérience du royaume de Dieu, du peuple de Dieu. Mais il y a un monde à venir où nous verrons parfaitement, complètement, entièrement le royaume de Dieu. Jean nous le rappelle dans le livre de l'Apocalypse. Écoutez, Apocalypse chapitre 21, 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée par son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Waouh ! L'essence de la foi consiste à recevoir ce que Dieu nous a révélé par sa parole. Elle peut en outre être définie comme une totale confiance dans le Dieu de la Bible, en Jésus-Christ qui l'a envoyé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a beaucoup de choses dans le futur qui nous attend. Il y a beaucoup de choses dans le futur qui nous attend. Mais par la foi, j'y m'y attache. J'y m'y accroche. Je veux la vivre. Troisième remarque, l'écrivain de la lettre aux Hébreux continue en disant que la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. L'assurance et la démonstration sont deux choses différentes. La foi est une ferme assurance des choses que nous ne possédons pas encore et qui nous attendent dans le futur. Mais la foi concerne aussi des choses qui existent maintenant, mais que nous ne voyons pas. Une démonstration des choses, elle donne la conviction des choses qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui existe et que nous ne voyons pas? Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu sur son trône. Celui qui a prononcé « Tout est accompli », il a remporté la victoire sur Satan, sur le péché, sur le monde, sur l'ennemi, de toutes ses manifestations, mais je ne le vois pas encore. Car ici-bas, nous avons un ennemi qui est enragé, un ennemi qui est terrible, furieux, qui attaque l'Église sur tous les plans, un ennemi qui veut détruire le peuple de Dieu. L'apôtre Pierre nous apporte une description de ce que nous pouvons espérer par le moyen de la foi. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans un grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection, de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieux que l'or périssable? Et la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant, vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse. qu'aucune parole ne saurait exprimer. Car vous obtenez le salut qui est le but de votre foi. Voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Dans le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Même dans sa manifestation première et la plus générale, la foi en tant qu'elle nous persuade que le monde a été créé par la parole de Dieu. Elle est, et une vue de l'invisible. Bien sûr, l'homme naturel cherche par la raison à expliquer sans Dieu la formation de l'univers. Il voudrait bien trouver l'origine du monde dans la matière et la force de la nature de la science. Il s'ensuit qu'il tâtonne dans l'obscurité et ne trouvant aucune certitude dans ses recherches. Par la foi, Dieu nous révèle toute sa manifestation. Nous considérons, nous comprenons, nous reconnaissons que toutes les choses visibles ont eu, en leur temps, une cause invisible. Que les siècles, les périodes que l'univers doit parcourir et tout ce qui les remplit a été fait, formé par la parole créatrice de Dieu. L'auteur fait allusion à quelques chapitres et quelques versets que nous allons voir dans la Genèse 1, au verset 1, 4, dans la version Semeur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dans le psaume 33, au verset 6 à 9, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle à un tas les eaux de la mer, il met des réservoirs les abîmes, que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et les choses arrivent. Il ordonne et elles existent. Et pour terminer, dans Jean 1, verset 1, 3, verset toujours Semeur, au commencement était la parole, était celui qui est la parole de Dieu. Je recommence. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Nous faisons partie de la création. Nous aussi. Nous croyons fermement qu'Adam et Ève ont vraiment existé. Ce sont des personnes historiques. Ils sont à l'origine de toute l'humanité. Nous lisons dans Actes chapitre 17, verset 26, que toutes les familles de la terre trouvent leur origine dans Adam et Ève. Nous croyons que tout le projet du salut provient de ces deux personnages. Ils sont à l'origine de la nation du peuple de Dieu. Dieu avait dit à Adam, concernant l'arbre dont le fruit était défendu, Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans la Genèse 2, verset 17. Après le péché d'Adam, deux sortes de morts sont venues. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, et la mort physique. Adam et Ève furent bannis du jardin où ils avaient joui de la communion avec le Créateur. Et le processus de la mort physique s'est mis en marche dans leur corps. Depuis ce jour, nous sommes tous destinés à mourir physiquement, quelle que soit notre justice ou notre méchanceté. Lorsque nous naissons sur cette terre, nous naissons avec une hérédité pesante qui nous remonte, qui ne remonte pas seulement de nos grands-parents ou à nos arrière-grands-parents, mais qui remonte à Adam et Ève. Il y a des générations et des générations de péchés qui pèsent sur nous quand nous naissons sur cette terre. Mais quand nous attendons et acceptons le message de l'évangile de Jésus-Christ, mort à notre place sur la croix, pour le pardon de nos péchés, nous recevons par la foi la vie éternelle de Dieu, une vie qui ne périt jamais. Alors pour conclure, l'homme, lorsqu'il naît dans ce monde, grandit avec un vide qui correspond à la peur, l'angoisse. Il essaie de les combler par des choses du monde telles que l'alcool, la drogue, le jeu, l'argent, le sport, la pornographie ou toute forme de spiritualité. Mais pas seulement. Parfois, il trouve simplement une femme, se marie, achète une maison, fait des enfants, et puis cela ne le satisfait pas. Alors, il se sépare et répète la même histoire avec autant de déceptions. Ce vide provient du fait qu'il lui manque la nouvelle naissance. Tant qu'il a la naissance naturelle, il lui manque quelque chose de fondamental. C'est la forme la plus subtile, la plus terrible, c'est de se sentir vide. Même en ayant toutes les facultés intellectuelles, comme ça nous a été aussi rappelé ce matin, ou le pouvoir, ou une grande connaissance théologique, ou s'il était une star sportive ou artistique, si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir les choses invisibles. Seul Dieu comble ce vide. Et quand Dieu comble ce vide, il y a transformation. Il n'est plus séparé de Dieu, il est dans l'unité avec lui pour l'éternité. Si l'on revient à mon histoire, Dieu m'a donné un nouveau départ, un sens à ma vie, grâce à une foi renouvelée et grandissante chaque jour. Il est encourageant de savoir que Dieu nous a aussi donné la capacité de croire à son espérance. L'apôtre Paul nous parle aussi de la foi. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la parole de Dieu ne se dit pas seulement, elle s'écoute, alors que nous puissions l'écouter tous les jours pour grandir toujours plus dans la foi. Et je terminerai encore sur quelques versets dans Hébreux chapitre 13 au verset 6 et 6 à 8. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen.